Marco, compte à rebours, au son du rock aussi. Un rock un peu plus relax, pour un moment, avec des histoires, eh oui, des contes, des légendes, tout un tas de choses que je raconte depuis longtemps et que je vais continuer à faire sans doute un certain temps. Et encore une fois, comme la semaine dernière, pour ceux qui ont bonne mémoire, eh bien on va partir au Japon. Et pourquoi, bien sûr, ben, pour célébrer notre magnifique générique japonais. Donc vous entendrez de splendides musiques, hein, une musique japonaise. Alors, pour qui n'a pas les oreilles trop formatées? D'ailleurs, ça c'est un très bon test. Si les musiques orientales en général vous agacent, c'est que vos oreilles manquent d'ouverture. Et probablement votre esprit aussi. Dans ce cas, écoutez Compte à rebours. Vous pouvez même aller chercher sur le site cfm.fr, enfin je ne sais pas exactement le nom, mais enfin ça se trouve. Vous pouvez aller chercher les, comme on appelle, les podcasts, c'est-à-dire c'est les vieilles émissions. Hein. Et vous les téléchargez, vous faites une cure. Une cure, et là, soit, il y a deux possibilités, soit vous devenez fou, hein, bon, c'est possible, soit vous guérissez définitivement votre xénophobie auditive, qui est quelque chose de très répandu. Hein. Souvent, on aime bien tout un tas de choses, mais il y en a, alors là, on se ferme. Eh bien, il faut s'ouvrir, on va s'ouvrir au Japon et aux contes aussi japonais. Bon, ils sont cette semaine, comme tous les contes, hein, finalement, variés, multiples, divers, mais ils ont un penchant, les contes japonais, pour les histoires de fantômes. Il y a beaucoup d'histoires de fantômes et beaucoup de farces avec des bonnes libidineux. Allez savoir pourquoi. Par chez nous, on n'a aucune histoire avec des bonnes libidineux. Hein. Donc, dans cette émission, la première histoire, bien, c'est vrai, il y aura des bones, ou un tout au moins, et peut-être même des fantômes, l'histoire de Monsieur Han. Ensuite, on aura affaire à un moine qui voulait mourir debout. Et pour finir, un bûcheron qui voulait devenir ministre. Mais tout de suite, pour commencer, je vais vous poser une devinette. Alors, le numéro de téléphone, vous devez le connaître, hein, de la radio. En tout cas, c'est possible de nous joindre. Bon, il n'y a rien à gagner. Hein. Mais faites ça pour vous, comme ça, dans la tête. Je pense que vous allez peut-être trouver. Hein. La question, c'est comment se dit coucou en japonais? Coucou en japonais, pas coucou, c'est moi, hein, non, coucou l'oiseau, hein, celui qu'on va pas tarder à entendre, hein, puisque vous voyez, le printemps, eh ben, il pointe son nez. Mais alors quand le coucou est là, bon, il y en a encore pour un bon mois, voire mois et demi, mais bon, quand le coucou est là, ça y est, c'est le printemps. Eh bien, en japonais, c'est kako. Oh, vous allez me dire, c'est pas bien différent, et non, et bien sûr, puisque, bon, enfin bref, K-A, 2-K-O, avec un accent circonflexe. Et en voici la raison, puisqu'il y a une raison. Vous savez que les noms d'oiseaux dans tous les pays s'inspirent d'un certain nombre de choses. Et c'est une histoire au Japon qui remonte il y a très 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 longtemps, à l'époque où un papa coucou avait des démangeaisons dans le dos. Ça arrive, hein. Donc il demanda à sa fille de lui gratter le dos. Vous savez, pour les oiseaux, avec le bec, c'est pratique, hein. Parce que tout seul, il pouvait pas. Hein. Bon, il arrivait à se tortiller. C'est comme pour les humains. Hein. Essayez de vous gratter le poing vraiment au milieu du dos. Hein. Bon, bien sûr, on peut faire des assouplissements pour y arriver. Mais généralement, on n'y arrive pas. Donc là, le coucou n'y arrivait pas. Et il demande à sa fille de lui gratter le dos. Eh bien, il se trouve que la demoiselle traversait les orages de l'adolescence. Qui sont, chez les oiseaux, chez les coucous, tout aussi terribles que chez les humains. Elle refusa, au prétexte que papa n'aimait guère certains coucous juvéniles qui arboraient une tenue brun-rouge du plus mauvais effet qui le faisait ressembler à une cresserelle femelle. Grotesque, fulminait papa, un coucou gris s'habille de gris. Tu n'y connais rien, c'est la dernière mode, rétorquait sa fille. Bref. Quel que soit le motif, en tout cas, peu importe, hein, la demoiselle Coucou refusa de rendre service à son père. Ce dernier, que son dos démangeait de plus en plus furieusement, alla se frotter contre un rocher pointu. Et il se blessa. La plaie s'infecta, il mourut. Une lamentable histoire, c'est vrai, une lamentable histoire. Et la jeune fille Coucou en éprouva un tel chagrin que depuis, elle répète « Caco, caco ». Kako, ce qui signifie, en japonais, je gratterai, oui, je gratterai le dos de mon papa. Hélas, il est trop tard. L'honorable monsieur Han, mandarin de haut rang, jouissait en sa campagne d'une retraite aimable. Il ne détestait pas la société et recevait souvent monsieur Xiu, un voisin de commerce agréable. Ce jour-là, ils devisaient tous deux sous les frais ombrages, prenant le thé, mangeant quelques gâteaux de riz, quand le bruit d'une altercation leur parvint des cuisines. Monsieur Han s'informa. Un moine mendiant voulait être reçu par le maître de maison en personne. « Il insiste avec impudence, » expliqua l'intendant. « Laissez-le venir, » fit M. Han. Le moine zen, vêtu d'une robe usagée et trouée, ne payait pas de mine. M. Han l'interrogea avec bonté. « Je suis arrivé récemment dans votre petite bourgade, » dit le misérable clerc. « Je me suis installé dans le temple en ruine à l'est de la ville. On m'a instruit de votre générosité et me voici. » Et tout en parlant, le moine loqueteux se servait largement de la nourriture étalée sur la table. Il appréciait les gâteaux de riz autant que les salés, que les sucrés. Il picorait à son aise dans les bols de porcelaine, croquant ici des graines de potiron, là, de tournesol. Il ne dédaignait pas non plus les brioches de viande en engloutis trois, parfumées aux graines de sésame et de lotus. Entre deux bouchées, il grappillait des amandes et des fruits secs et pour faire glisser le tout, il buvait force tasses de thé. Une vingtaine, comptabilisa Monsieur Xiu, que l'effronterie du personnage scandalisait. Le moine prit ainsi le pli de venir régulièrement dans la maison de Monsieur Han. Il arrivait habituellement à l'heure de la collation. Il s'invitait à table, se servait copieusement et buvait à satiété. Monsieur Han le regardait opérer avec un sourire indulgent. Monsieur Xiu le supportait de plus en plus mal. Un après-midi, alors que le moine avalait sa 12e tasse de thé et mordait sans vergogne dans un succulent gâteau de riz, Monsieur Xiu l'interpella avec un brin d'ironie. « Saint homme, mon ami Monsieur Han et moi-même sommes flattés de votre constance à partager nos humbles repas. Peut-être accepterez-vous de nous recevoir à votre tour ?» Le moine répondit avec calme « Venez quand vous le voudrez. Mais vous le savez, j'habite des ruines et j'aurai bien du mal à vous offrir autre chose que des tasses d'eau claire. » Et il s'esclaffa. Quand ils arrivèrent devant les anciennes ruines du temple où le moine avait établi sa demeure, Monsieur Han et Monsieur Xiu furent ébahis. On avait réalisé là d'importants travaux. le bâtiment central était entièrement restauré. Elles pénétrèrent dans une salle magnifique où une immense table couverte d'une nappe brodée les attendait. Des mets à profusion s'étalaient sous leurs yeux émerveillés. Ils prirent place sur des lits. 16 jeunes et beaux garçons vêtus de robes d'apparat, chaussés de sandales rouges, les servaient avec diligence, attentifs à leurs moindres désirs. On leur offrit, dans des plats de cristal et de jade, des fruits inconnus, délicieux. Leur hôte, lui-même, vêtu de brocart et d'or, leur versait dans des coupes larges d'un pied un vin parfumé digne des immortels. Soudain, le moine frappa dans ses mains. « Que l'on fasse venir les sœurs Tché !» s'écria-t-il. Un serviteur s'empressa et revint aussitôt accompagné de deux jeunes filles ravissantes. Leur taille souple, pliée comme des saules. La plus grande jouait de la flûte, la plus jeune chantait d'une voix délicate et cristalline. Ensuite, elles se mirent à danser. Leurs longues robes flottaient sur le sol, un nuage de parfums enivrants les enveloppait. Monsieur Han et Monsieur Xiu sentirent leur cœur s'élargir et leur âme s'envoler. À ce moment, le moine invita la plus jeune danseuse à la rejoindre sur sa couche, tandis que la plus grande, penchée sur eux, les éventait doucement. Monsieur Han et Monsieur Xiu, légèrement ivres, étourdis par le vin merveilleux qu'ils avaient bu, regardaient ce spectacle avec stupeur. Le premier Monsieur Xiu réagit. Ce moine est décidément un personnage impudent, éhonté, et il se leva en titubant. Mais quand il s'approcha, le moine avait disparu. « Monsieur Han, appela-t-il, venez, ces jeunes filles sont prêtes !» Et Monsieur Xiu s'allongea avec la plus jeune sur la couche que le moine venait de quitter, tandis que Monsieur Han, à son tour, prit dans ses bras la plus grande, dont la taille pliait comme un saule, et s'étendit à côté d'elle. Alors, soudain, le ciel s'éclaira. Le songe d'ivresse se dissipa, et Monsieur Han et Monsieur Xiu se retrouvèrent en train de serrer entre leurs bras de froides dalles de pierre. Ils étaient couchés au milieu de ruines, de bâtiments abandonnés et de chambres démolies. Ainsi a-t-il été rapporté. Le moine qui voulait mourir debout. En ce temps-là, rapporte la légende, il y avait un moine du nom de Ten Yin Feng qui, avant de passer au-delà du chagrin comme tout homme en ce monde, interrogea ainsi ses disciples. « On a vu des moines mourir couchés, assis, mais y en a-t-il qui sont morts debout ?»« Oui, répondirent ses disciples. » Et ils nommèrent le troisième patriarche, Seng Tsan, qui mourut debout, les mains croisées sur le nombril en l'an 606, et aussi Shilchen de Huanch, qui décéda en 906. Il fit 7 pas et mourut en plein élan de sa marche. « Fort bien, dit Ten Yin Feng. Et à votre connaissance, y a-t-il des moines qui expirèrent la tête en bas ?»« Non, firent ses disciples, étonnés. Aucun sage, à notre connaissance, n'est mort ainsi. » « Ah, fit Ten Yin Feng !» Et il se mit la tête en bas, et il mourut ainsi. Quand on voulut amener le maître sur le bûcher funéraire, sa position insolite gêna tout le monde. La cadette de Teng, une jeune nonne qui assistait aux funérailles, voya l'embarras des moines, apostropha ainsi son frère mort. « Sans doute étais-tu un saint homme, s'écria-t-elle, mais tu importunes l'assemblée avec tes excentricités. » Et d'une ferme poussée, elle fit tomber le cadavre de son frère, ce qui permit de le porter sans difficulté jusqu'au crématoire. Il était une fois un couple de pauvres bûcherons. Le mari s'en allait tous les jours dans la montagne couper du bois. Ce soir-là, il rentrait sa lourde charge sur le dos quand il croisa dans un chemin étroit un fonctionnaire du gouvernement. Ce personnage d'importance voyageait sur une litière à quatre porteurs. Les valets qui précédaient le cortège l'écartèrent brutalement. « Place, place à monsieur le gouverneur !» Le bûcheron, pliant sous son chargement, tomba dans la boue. À ce moment, le fonctionnaire, soulevant un rideau, vit le bûcheron à terre. Il rit en disant avec mépris « Regardez-moi cette face d'abruti !» Et refermant le rideau, il passa. Le jeune bûcheron, qui ne connaissait pas la méchanceté du monde, fut profondément blessé. « Comment ?» se disait-il. Je travaille tout le jour, je suis honnête, et ce fonctionnaire me considère moins que la boue du chemin. Il rumina sa colère plusieurs semaines. Enfin, il eut l'occasion de rencontrer le chef du village, à qui il relata sa mésaventure. « Mais c'est chose banale, dit le chef du village, tu ne sais ni lire ni écrire. Pour un fonctionnaire, tu n'es rien, à peine un animal. » « Que dois-je faire pour qu'on me respecte comme un homme ?» demanda naïvement le jeune bûcheron. « Eh bien, deviens fonctionnaire !» dit le chef du village en haussant les épaules. « Et comment m'y prendrais-je » insista le bûcheron. « Eh bien, va dans la capitale, traîne dans les rues, aux alentours du palais, on finira bien par te nommer mandarin !» se moqua le chef du village. Le pauvre bûcheron était aussi ignorant des usages du monde qu'un veau qui tait encore sa mère. Il crut les paroles du chef du village. Après avoir dit adieu à sa femme, il fit son baluchon et partit à pied pour la capitale. Il trouva un abri de fortune aux portes de la ville et, suivant à la lettre les conseils qu'on lui avait donnés, il passa ses journées en se traînant dans la boue des rues aux alentours du palais du roi. « Qui est ce fou ?» se demandaient les habitants. Il prétend qu'ainsi il obtiendra un poste de fonctionnaire, expliqua une vieille femme. C'est un simple, un bonnet. Qu'il pleuve, vente ou neige, par tous les temps, le bûcheron continuait de se rouler dans la boue des rues. Il rampait tout autour du palais. Il devint bientôt une attraction dans la ville. Les jours de marché, la foule s'assemblait autour de lui. Les gamins le brocardaient et lui jetaient des pierres. Mais pourquoi se traîne-t-il ainsi sur le sol alors que ses deux jambes sont saines, questionnaient et des gens sérieux. Il croit qu'ainsi, on le nommera fonctionnaire. C'est un sot de la plus belle eau. Les libellistes composèrent une chanson que répétaient les gamins sous les murs du palais. Roule, roule dans la boue, fais-toi des bosses partout, mais que t'importe cela, le roi te dédommagera. L'histoire de ce fou, qui rêvait de coiffer le chapeau des fonctionnaires en se traînant dans la boue, parvint aux oreilles du roi. « Ce doit être un simple, un innocent, dit le souverain, mais son courage et son obstination m'intriguent. » Le lendemain, comme il le faisait parfois, il revêtit des habits ordinaires et se glissa hors des murs du palais. Il se mêla à la foule et personne ne le reconnut. Il s'approcha du malheureux étalé dans la gadoue. « Il paraît que tu te roules dans la boue pour devenir fonctionnaire. »« C'est la vérité, dit le bûcheron, et je le deviendrai. »« Ah, fit le roi. Et quel poste désires-tu obtenir ?
Quel poste ? Oh, je ne sais pas.
La fonction t'est indifférente ? Demanda le roi.
Oh, il faudrait qu'elle soit plus importante que celle de gouverneur de province.
et il raconta toute son histoire au personnage bienveillant qu'il interrogeait. « Je vois, fit le roi, je crois que le poste de ministre te conviendrait. »«
Eh bien, va pour le ministre, dit le bûcheron, ça m'est égal. »
Tu souhaiterais peut-être prendre la place du roi en personne ?
Non, se récria le bûcheron. Le roi est un personnage sacré et élu des dieux. Je voudrais simplement un emploi qui fasse de moi un homme.
Le roi hocha la tête et s'en alla songeur. À quelque temps de là, il ordonna que l'on fît venir auprès de lui ce bûcheron qui se roulait dans la boue sous les murs du palais. En présence des courtisans, il lui remit solennellement le chapeau de crin qui faisait de lui un fonctionnaire royal et du haut de son trône, et lui parla avec bonté. « Mon ami, dès cet instant, tu es un fonctionnaire, l'égal de tous les gouverneurs de province. Désires-tu autre chose ?»«
Non, je veux reprendre ma hache et retourner dans ma forêt, » dit le bûcheron. « C'est là que je suis heureux. Je n'aurai désormais plus de soucis puisque le roi lui-même a reconnu en moi un homme. »
Voilà, compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez entendu tout un tas de choses, et notamment cette étrange dernière musique qui fait klezmer, mais qui est japonaise aussi. Pour aujourd'hui, compte à rebours, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Marco.